À l'écoute des pères, l'émission de dialogue RCF sur les pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission sur les pères de l'Église. On va débuter une nouvelle série et vous faire peut-être découvrir ou redécouvrir les pères en langue syriaque. Jean Charmois, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors je vous accueille pour la première fois dans cette émission et vous demande toute votre indulgence sur la méconnaissance parfois de certains de ces pères de ma part. On a pris l'habitude de distinguer les pères grecs et les pères latins, or on oublie souvent les pères syriaques, dont évidemment la langue est le syriaque, une langue sémitique comme l'hébreu dans l'Ancien Testament et comme l'araméen parlé par Jésus lui-même.
Oui, effectivement, on n'est pas souvent habitué à entendre parler d'un christianisme oriental qui est quand même le christianisme des origines. Il ne faut pas oublier qu'il a parcouru et marqué profondément l'Orient, la Syrie, jusqu'à l'Iran, et y compris à travers l'islam. Et rien que pour ce pont avec l'islam, je pense que c'est intéressant d'écouter un peu les pères de langue syriaque. C'est des églises où l'ascétisme sous différentes formes, des ermites, des stylites, des moines sous des formes de vie communautaire, ont exercé un rôle d'importance énorme dans le développement de la pensée théologique et spirituelle de ces régions. Mais chez les pères syriaques, et vous le verrez dans les émissions qui vont suivre, cet ascétisme monastique est intégré dans une vision poétique avec un emploi très fréquent du symbolisme et une forte orientation vers la contemplation et la glorification de Dieu.
Alors, dans cette émission, vous voulez nous parler de l'histoire du roi d'Édesse.
Oui, alors c'est une histoire, comme ça en passant, qui est assez intéressante. Enfin bon, elle est fortement légendaire, certainement, mais en fait, la tradition fait remonter la christianisation d'Édesse à l'époque. Édesse est donc une des villes de Syrie, l'une des grandes villes de Syrie, qui est aujourd'hui Urfa en Turquie. À l'époque même de Jésus, selon Eusèbe de Césarée, au IVe siècle, les émissaires du roi d'Édesse, qui s'appelait Akbar, vont voir Jésus en Palestine, constatent ses miracles et les difficultés qu'il rencontre de la part des Juifs. Le roi Akbar est malade, il écrit une lettre à Jésus pour lui demander de venir le guérir et lui proposer de partager avec lui son royaume. Alors, le Christ, Jésus, décline l'invitation, mais envoie une lettre à Akbar, lui promettant, après sa résurrection, de lui envoyer un disciple pour le guérir et le convertir. Et avec la lettre, l'ambassade rapporte un portrait du Christ que Jésus aurait fait lui-même en appliquant le linge sur son visage. Tradition qu'on retrouvera en Occident, mais sous une autre forme. Et après l'ascension, l'apôtre Thomas va envoyer à Édesse Thaddée, qu'on appelle Adai en syriaque, un des 72 disciples du Christ, qui convertit le roi et son entourage et fonde l'église d'Édesse. Et on a comme témoignage la pèlerine gauloise Égérie, qui est venue d'Occident pour visiter les lieux saints, qui a laissé un ouvrage assez intéressant sur ses lieux de pèlerinage, qui a passé quelques jours à Édesse. Elle a mentionné dans son récit de son voyage les lettres, ces fameuses lettres de Jésus.
Alors, la tradition fait remonter la traduction de la Bible en syriaque à la ville d'Édesse, et notamment pour évoquer deux branches principales de la tradition syriaque, l'Église apostolique d'Orient et l'Église syriaque orthodoxe. La différence des deux et pourquoi ces deux églises?
Alors, tout d'abord, c'est important la traduction en syriaque parce qu'on a l'habitude d'avoir plus des versions de la Bible qui sont en hébreu. C'est la Bible des Massorètes du IIe siècle après Jésus-Christ. On a une version de la Septante, qui est antérieure au Christ, qui est IIe ou IIIe siècle avant Jésus-Christ, et une version en syriaque, fortement inspirée de la Septante, et qui est en langue araméenne, puis ensuite en langue syrienne. Et syriaque, pardon. Et donc, c'est une version intéressante. Elle est appelée la Peshitta, c'est-à-dire la simple, comme la commune, comme le nom de la Vulgate. Et c'est une église, c'est une Bible qui est encore utilisée par les églises de langue syriaque. Alors, en ce qui concerne ces deux églises dont vous parlez, Frédéric, en fait, ces deux branches, l'une qui va être orientale, l'autre occidentale, et qui vont avoir des destins différents parce qu'elles vont choisir des positions théologiques assez contrastées. Alors, l'Église d'Orient, l'Église apostolique de l'Orient, comme elle s'appelle, c'est une église qui s'est parcourue sur la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak, l'Iran d'aujourd'hui, et puis qui est allée évangéliser à travers la Perse jusqu'à l'Inde et jusqu'à la Chine. Donc c'est une église extrêmement missionnaire, mais qui a été... qui a eu quand même un sort un peu difficile parce que, en fait... en Perse, puisque c'était son lieu de fixation le plus important, en Perse, le roi perse, qui était zoroastrien, donc une autre tradition que le christianisme, voyait très mal tous ces chrétiens présents dans son empire. Pourquoi ? Parce que chrétien, ça lui faisait penser tout de suite à l'empereur de Rome qui se vantait et se réclamait du christianisme. Et donc, quelque part, les chrétiens ont été considérés comme une sorte de cinquième colonne à travers l'Empire perse, comme on va d'ailleurs le constater après la conquête arabe de la part des musulmans qui vont considérer les chrétiens d'Orient comme une sorte de colonne occidentale à l'intérieur de leur fonctionnement. Alors, cette église s'est développée autour d'une capitale qui s'appelle Séleucie Ctésiphon. Séleucie, c'est une ancienne ville construite par Alexandre le Grand. Et le catholicos, donc l'évêque de Séleucie Ctésiphon, avait juridiction sur l'ensemble de cette église. C'est une église qui a rejeté le concile d'Éphèse. Alors, le concile d'Éphèse, c'est celui, je renvoie les auditeurs à nos émissions concernant Cyril d'Alexandrie et le concile d'Éphèse. C'est un concile qui a condamné les positions théologiques de Nestorius, patriarche de Constantinople à l'époque. Qu'est-ce que c'était ces positions ? C'était qu'il y avait deux personnes dans le Christ. Il y avait le Christ et Jésus. Jésus, né de Marie, et à côté... ou uni à Jésus, mais pas vraiment uni de manière profonde, le Christ, Dieu, le Verbe de Dieu. Et ça, cette position de dichotomie entre le Christ et Jésus a été condamnée par le Concile d'Éphèse. Et en fait, on a qualifié cette Église d'Orient de nestorienne. Quand on regarde bien comment parlent les pères de cette Église apostolique, on s'aperçoit qu'elles sont extrêmement proches de nous, catholiques ou orthodoxes. Et donc, c'est une Église qui est finalement très intéressante à suivre. Elle s'est développée, alors je le disais tout à l'heure, elle s'est développée à partir du 5e, 6e siècle, puisqu'on mentionne la présence de chrétiens de cette Église dans l'île de Ceylan. Un évêché en Inde du Sud, au Kerala, il existe toujours d'ailleurs, et un site près de Bombay. Et au 7e siècle, la mission atteint la Chine et on retrouve une stèle à Xi'an, ce qui était la capitale de l'Empire chinois sous la dynastie des Tang, avec une liste de chrétiens inscrite en syriaque sur une stèle. Ensuite, l'irruption de la conquête musulmane en Irak en 632 et la destruction de l'Empire perse n'ont pas changé vraiment la situation des chrétiens de Mésopotamie parce qu'ils étaient déjà habitués à composer avec un pouvoir non chrétien. Et donc, en fait, et en plus, ils sont restés très longtemps majoritaires dans la région. Paradoxalement, les chrétiens étaient majoritaires en Perse.
On peut peut-être maintenant évoquer l'église syriaque orthodoxe, Jean.
Alors ça, c'est l'autre volet de la langue syriaque. C'est l'église qui est restée dans l'Empire romain. Elle est restée dans l'Empire romain, mais elle n'a pas accepté le concile de Chalcédoine, donc un autre concile en 451, qui, lui, a fait valoir que dans le Christ, il y avait une personne et deux natures. Et à la suite de Cyril d'Alexandrie, l'église d'Égypte et l'église de Syrie et de Palestine, l'église syriaque, a dit non, il n'y a pas... Il y a bien qu'une seule personne, bien sûr, c'est le Verbe de Dieu qui s'est incarné, mais en fait, il y a seulement une nature du Verbe de Dieu incarné. Et donc, les églises d'Égypte et de Syrie, aussi pour des raisons qui sont un peu politiques, parce que pour se dégager de la tutelle de l'Empire romain d'Orient, ont en fait se sont positionnés de manière complètement différente de l'église principale, de la grande église, comme on l'appelait, la grande église qui était à Constantinople et à Rome et partout ailleurs dans la Méditerranée. Cette église a construit une hiérarchie parallèle. Là-dessus est arrivée la conquête arabe qui a figé complètement le dispositif, puisque l'Égypte, la Palestine, la Syrie et voire ensuite la Turquie sont devenues des conquêtes de l'islam. Donc dans l'islam, quand les Arabes sont arrivés, l'église syriaque d'Occident, enfin occidentale, l'église syriaque de près de la Méditerranée, a accueilli les Arabes de manière tout à fait favorable. Parce que effectivement, le joug de l'Empire romain était ainsi si éliminé. Donc voilà. Alors c'était cette église là aussi, c'est une église qui était abusement qualifiée de monophysite, une seule nature. Mais en fait, ils se sont toujours qualifiés d'orthodoxes. Comme dans l'église d'Orient, d'apostolique d'Orient, le mot orthodoxe a toujours été revendiqué par toutes les églises. C'est-à-dire tous étaient persuadés et convaincus que leur église était dans la vraie foi. Et ils ont rejeté cette église, donc syriaque occidentale, qui s'appelle aussi syro-orthodoxe ou syriaque orthodoxe, comme une église sœur d'Égypte qui est l'église copte orthodoxe, ont rejeté le concile de Chalcédoine et on en est encore là aujourd'hui.
Alors dans les prochaines émissions, nous allons écouter la parole des grands-pères de ces églises. Malheureusement, ces églises syriaques ont perdu leur importance, Jean, après la conquête arabe et de nombreux malheurs se sont abattus sur ces chrétiens orientaux. Pression de l'islam, comme vous l'avez dit, prosélytisme, catholique romain, immigration massive en Occident. Nous en parlerons dans une prochaine émission.
Merci.
À l'écoute des pères. L'émission de dialogue RCF sur les pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.